C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 18 février et aujourd'hui nous allons parler d'une découverte qui pourrait bien marquer une avancée majeure dans la compréhension des phénomènes énergétiques extrêmes de l'univers.
Le 13 février 2023, un neutrino d'une énergie record a été capturé au large de la Sicile par un détecteur du télescope KM3Net immergé en Méditerranée. Son énergie a atteint les 220 millions de milliards d'électronvolts, c'est-à-dire 30 fois plus que les neutrinos les plus énergétiques enregistrés jusqu'ici. Mais qu'est-ce que les neutrinos? Pourquoi les étudie-t-on? Et en quoi cette découverte inattendue est si importante?
Pour en parler, nous serons aujourd'hui accompagnés de Benoît Guillon, maître de conférence à l'ENSICAN, et Valentin Pestel, chargé de recherche au CNRS. Mais avant cela, c'est l'heure des infosciences de la semaine. Et on commence avec des chercheurs japonais qui travaillent au développement d'une main biohybride.
Elle mesure 18 cm et ses doigts articulés peuvent bouger indépendamment les uns des autres. Cette nouvelle prothèse est composée de petites pièces légères en plastique qui imitent les os. Ces dernières seraient reliées entre eux par des tendons composés de muscles humains cultivés en laboratoire.
Et cette innovation pourrait permettre aux personnes amputées de retrouver une mobilité proche de celle d'un membre humain.
C'est l'objectif à terme, mais pour l'heure, cette innovation va nécessiter encore plusieurs années de recherche, notamment en ce qui concerne les muscles. Ces derniers se fatiguent rapidement après quelques minutes d'utilisation et leur force reste limitée. Ils ne sont notamment pas encore capables de soulever des objets. Vendredi dernier, c'était la Saint-Valentin. À cette occasion, vous avez peut-être offert des fleurs à votre moitié. Pourtant, même si cela part d'une bonne intention, il pourrait bien s'agir d'un cadeau empoisonné.
Effectivement, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a publié vendredi matin une étude sur la présence de pesticides dans les fleurs coupées. Sur la quinzaine de bouquets testés, 100% étaient contaminés. Jusqu'à 46 résidus différents ont été retrouvés sur un seul bouquet, dont certains interdits en Europe. Ces pesticides menacent directement la santé de ceux qui les manipulent, augmentant les risques de certains cancers, de Parkinson, mais aussi de troubles cognitifs ou respiratoires.
Mais alors, que préconise l'association des consommateurs?
L'UFC Que Choisir plaide pour instaurer une limitation sur les doses maximales de résidus présents sur les fleurs coupées. Elle demande également d'arrêter l'importation des fleurs traitées avec des pesticides interdits en Europe. Côté consommateurs, l'association nous recommande d'opter pour des fleurs bio ou à défaut des fleurs françaises de pleine saison qui sont moins susceptibles de contenir des agents dangereux. Meta aurait mis au point une technique permettant d'écrire une phrase par la pensée grâce à l'intelligence artificielle.
Elle a été baptisée Brain to QWERTY et permettrait de lire des phrases entières dans la pensée d'une personne et ce avec un simple scanner externe. Une phrase s'affiche à l'écran, on la mémorise et le système est capable de la lire directement dans notre cerveau. C'est bien la première fois que nous pouvons faire cela sans intervention chirurgicale.
Mais cette technique est-elle fiable?
Eh bien, il semblerait que oui, son taux de fiabilité aurait atteint 80% contre 20% pour les autres méthodes sans chirurgie. Seule limite à cette étude, la phrase doit d'abord être tapée sur un clavier pour s'assurer qu'on la décompose bien lettre par lettre et que le scanner la décrypte correctement, mais cette innovation reste une source d'espoir dans la quête d'un moyen de communication avec les personnes totalement paralysées ou encore atteintes de la maladie de Charcot. Une étude publiée la semaine dernière dans la revue Nature affirme que le noyau de la Terre changerait de forme.
Semblable à une grosse boule de fer et de nickel d'environ 2400 km de diamètre, il est difficile d'imaginer ce noyau situé au centre de la Terre se déformer. Pourtant, les géophysiciens de l'Université de Californie du Sud ont bel et bien observé des altérations dans la structure de ce noyau, pouvant aller jusqu'à 100 mètres de hauteur par endroit.
Mais comment les scientifiques s'y sont pris pour analyser ce noyau?
Eh bien, ils ont étudié les vibrations engendrées par les tremblements de terre. Ces ondes sismiques changent de vitesse et de direction en fonction des obstacles qu'elles rencontrent. Grâce à des modélisations numériques, ils ont pu en comparer plusieurs venant de la même zone et de conditions météorologiques semblables. Cela leur a permis de déceler des différences topographiques au cours du temps. Des scientifiques chinois ont découvert une nouvelle espèce de poisson des profondeurs.
Cette dernière appartient à la famille des Branchiostegus. Ces poissons vivant jusqu'à 600 mètres sous la surface ont une particularité. Ils creusent des terriers dans le sable ou encore dans la vase pour se préserver du danger. Mais le nouveau Branchiostegus découvert a une caractéristique bien à lui. Si son corps allongé est semblable à celui de ses congénères, sa tête massive est ornée de petits motifs sous ses yeux.
Et c'est justement cette particularité dont elle tient son nom.
Exactement, elle a été baptisée Branchiostegus sanae en hommage à San, la guerrière emblématique thématique du film Princesse Mononoke d'Hayao Miyazaki, qui arbore des peintures de guerre sur son visage. Mi-humaine, mi-louve, elle incarne la relation complexe entre les humains et la nature et la nécessité d'une coexistence harmonieuse entre les deux. Le nom Branchiostegus sanae fait donc écho à ce message. Et pour terminer ce flash, coup d'œil dans le rétroviseur, il y a tout juste 95 ans, le 18 février 1930, l'astronome américain Clyde Tombaugh découvrait Pluton.
C'était à l'observatoire Lowell en Arizona. Alors âgé de 24 ans, Clyde travaille sur la recherche d'un corps céleste permettant d'expliquer les perturbations orbitales de Neptune. Le 18 février, il identifie un point qui bouge entre deux photographies prises dans le cadre de ses recherches. D'autres clichés confirmeront la découverte d'un nouvel objet, il s'agira de Pluton.
Mais la classification de cet astre a fait débat.
Effectivement, Pluton a très longtemps été considéré comme la 9e planète du système solaire, mais en 2006, un vote de l'Union Astronomique Internationale la rétrograde au rang de planète naine. La raison, avec ses 2300 km de diamètre, Pluton est plus petite que notre Lune. Or, au début des années 2000, trois astres semblables ont été découverts dans son voisinage. Il se trouve que ces petits planétoïdes sont en fait nombreux dans cette zone. Les astronomes ont donc changé la définition de planète, et Pluton s'est retrouvé exclu de celle-ci.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
On les prénomme les particules fantômes. Chaque seconde, notre corps est traversé par des millions de neutrinos, la deuxième particule élémentaire la plus abondante dans notre univers. Elle n'a pas de charge électrique, presque pas de masse et n'interagit que faiblement avec la matière. Et le 13 février 2023, un neutrino à ultra haute énergie a été détecté par le télescope sous-marin KM3Net, une découverte qui a été confirmée le 12 février dernier et qui marque un tournant dans notre compréhension des phénomènes les plus violents de l'univers, comme les trous noirs ou les supernovas.
Et pour nous aider à mieux comprendre les enjeux d'une telle découverte, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Benoît Guillon, maître de conférence à l'ENSICAN, et de Valentin Pestel, chargé de recherche au CNRS. Bonjour.
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 Pour commencer, certains estiment que le neutrino est l'une des particules élémentaires les plus mystérieuses. Alors déjà, qu'est-ce qu'une particule élémentaire et qu'est-ce qui fait du neutrino une particule si spéciale ?
Moi, je vais commencer par, qu'est-ce qu'une particule élémentaire ? Alors, une particule élémentaire, en fait, c'est une particule qui est non composite, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une quantité indivisible, en quelque sorte, qui n'a pas de sous-structure. Quand on regarde, en fait, le modèle standard de la physique des particules, on se retrouve avec 12 constituants élémentaires, donc il y a 6 quarks et 6 leptons, qui sont, comme je le disais, en fait, des particules qui, jusqu'à présent, n'ont pas montré de sous-structure. Donc voilà, c'est ça la définition d'une particule élémentaire. Alors pourquoi elle est mystérieuse ? C'est parce qu'en fait on connaît très peu de choses sur cette particule. On sait qu'elle est massive depuis 10-20 ans, mais on connaît toujours pas sa masse. Et elle interagit uniquement par interaction faible, c'est-à-dire extrêmement rarement. Et donc du coup on a très peu de connaissances sur ses propriétés élémentaires.
Et est-ce qu'on sait comment se forment les neutrinos ?
Alors oui, en fait, ils sont émis par des processus radioactifs, par la radioactivité naturelle en quelque sorte, et puis par la radioactivité...
Sur Terre, on a beaucoup de sources, hein. Les réacteurs nucléaires par exemple vont en émettre beaucoup, c'est un endroit où on les a historiquement découverts la première fois d'ailleurs, auprès d'un réacteur nucléaire, on peut les produire en accélérateur, et on a tout un tas de sources naturelles autour de nous, tu parlais de la radioactivité, mais par exemple le soleil en émet extrêmement, c'est une des principales sources des neutrinos qui nous traversent, et à des énergies bien plus importantes, il y a tout un tas d'astres qui en émettent. À partir du moment où on excite de la matière très très fort, on a des neutrinos qui sont produits à un moment.
On surnomme les neutrinos des messagers cosmiques. Pourquoi ?
Alors, c'est une des propriétés des neutrinos, c'est qu'il n'a pas de charge, donc il n'est pas soumis à l'interaction électromagnétique. Et ça, ça va être intéressant pour nous, parce que du coup, ça veut dire qu'il va se propager en ligne droite, comme la lumière. Donc, c'est très intéressant parce qu'il vient nous apporter des informations supplémentaires sur les astres. Historiquement, on a d'abord commencé à regarder le ciel avec la lumière visible, avec les télescopes, avant même les télescopes à l'œil nu, et c'est comme ça qu'on a commencé à l'observer. Il y a eu une première révélation, une première révolution au siècle dernier, ça a été de regarder... une gamme plus large de la lumière en regardant notamment les ondes radio mais en regardant aussi les rayons X et les rayons gamma qui nous ont apporté d'autres informations sur ce qui se passait dans ces astres. Maintenant avec le neutrino on a accès à d'autres informations puisque le neutrino comme il interagit très peu il va s'échapper du centre de l'astre et il va nous donner des informations sur ce qui se passe au centre et comme il n'est pas dévié par les champs électromagnétiques qu'on va trouver dans l'espace etc. il va nous permettre de bien pointer vers l'origine et donc d'identifier ce qui se passe à l'intérieur des astres qu'on regarde directement.
Et donc, on l'a dit, le 13 février 2023, on a découvert un neutrino à ultra haute énergie. Mais si on a bien compris, c'est un muon qui a traversé tout le détecteur ARCA, induisant des signaux dans plus d'un tiers des capteurs actifs et permettant de capter le neutrino à son origine. Alors du coup, qu'est-ce qu'un muon ?
Alors, le muon, c'est, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est également une particule élémentaire. Donc, je vous ai parlé des leptons. Alors, les leptons, on a trois leptons chargés, électron, muon et taux. Et à ces trois leptons chargés, on a les trois neutrinos, neutrino électronique, neutrino muonique et neutrino toïque. Alors le muon, en fait, c'est le partenaire, en quelque sorte, du neutrino muonique. En l'occurrence, ici, avec M3LET, on a détecté un muon, qui est justement, en fait, qui a été produit après l'interaction d'un neutrino muonique.
Comment on sait qu'il a été produit après l'interaction? Ces muons, il y en a énormément qui sont produits au quotidien dans l'atmosphère par d'autres phénomènes. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se met au fond de la mer. En utilisant les kilomètres d'eau qu'on va avoir au-dessus de nous, ça permet d'arrêter ces muons atmosphériques et d'être sûr que ce qu'on observe, c'est la seule particule qui peut traverser jusqu'ici, c'est le neutrino. Mais en réalité, des muons qui viennent du haut, on en a encore beaucoup, même en se mettant au fond de la mer. Ce qui nous permet d'assurer que c'est un neutrino ici, c'est que la particule, ce muon, il est arrivé à l'horizontale dans notre détecteur. Et si on regarde sa trajectoire et la quantité de matière qu'il a dû traverser pour arriver là, il a dû traverser à peu près 150 km de matière, dont à peu près 100 km de roche. Et ça, on est sûr qu'un muon tout seul ne peut pas le faire. Et donc c'est un neutrino qui a traversé cette partie, en fait, qui a interagi dans les quelques kilomètres avant notre détecteur. Et lors de son interaction, il a produit un muon. Et c'est cette particule que nous, on peut détecter.
Ouais, peut-être pour donner un peu plus de détails, en fait, le muon, c'est comme un gros électron, en quelque sorte. Il a la même charge électrique. La seule différence, c'est qu'il est beaucoup plus lourd. Et c'est la même chose pour le taux, qui va être encore plus lourd que le muon. La principale différence, c'est la masse, en quelque sorte.
Et alors, en quoi la découverte de ce neutrino, ça marque une avancée majeure dans la compréhension des phénomènes cosmiques les plus extrêmes ?
Alors... Donc, ce qui est intéressant avec ce neutrino de très haute énergie, c'est qu'on repousse un petit peu les limites de ce qu'on connaît. Comme vous l'avez dit dans l'introduction, il est 30 fois plus énergétique que les neutrinos qu'on a vus avant. On s'attendait, en quelque sorte, théoriquement, à avoir des neutrinos à ces énergies-là. On les avait jamais observés. Déjà, premièrement, ça veut dire que maintenant, on a la technologie disponible pour les observer. Maintenant, la question, c'est de savoir d'où ils viennent. Et là, il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses possibles, c'est des événements très énergétiques. Donc, on a ce qu'on appelle les sursauts gamma, qui vont être des explosions de supernova cataclysmiques, avec des jets de matière très importants qui vont durer de la seconde à la journée, par exemple. Et on pourrait se retrouver dans un de ces jets et voir une des particules qui a été produite. D'autres objets cataclysmiques, c'est par exemple les noyaux actifs de galaxies. Donc là, au centre de chaque galaxie, il y a un trou noir supermassif. De temps en temps, on se retrouve dans des galaxies où il y a beaucoup de matière autour de ce trou noir et ça va exciter toute cette matière et ça va fabriquer un accélérateur de particules colossal à des échelles qui sont difficiles à se représenter. Et ça pourrait aussi accélérer des particules à ces énergies. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'on arrive dans un domaine où peut-être qu'on découvre de nouveaux types de processus. Peut-être que ce neutrino, il n'a pas directement été produit dans une source, il pourrait être ce qu'on appelle cosmogénique. Dans ce cas-là, c'est une particule à très très haute énergie, des milliers de fois plus énergétique que le neutrino qu'on a détecté, qui aurait été émis par une source quelconque. Et cette particule, elle a tellement d'énergie qu'elle peut interagir sur la lumière résiduelle du Big Bang. Ça paraît assez abstrait, mais on baigne dans un bain de lumière du Big Bang qui, à force de se décaler, est devenu des ondes radio. On baigne dedans. Et à ces énergies-là, les particules peuvent interagir avec ça. Et c'est ça qui aurait pu produire ce neutrino. Et ça, c'est très intéressant parce que si on rentre dans cette gamme en énergie, on peut commencer à détecter de telles particules. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas associé ça exactement à un phénomène. C'est la recherche, mais ça ouvre la porte justement à ces nouveaux champs de l'astronomie.
Et justement, comment on va faire maintenant pour déterminer l'origine de ce neutrino ? Est-ce qu'il y a déjà des pistes qui sont en cours d'élaboration ?
Alors, pour ce neutrino en particulier, alors effectivement, en fait, au moment où il a été détecté, ce neutrino, la calibration en orientation de notre détecteur n'était pas encore optimale. Le détecteur n'est pas fini de construire, en quelque sorte. Et on va installer, en fait, un nouveau système de positionnement et de calibration en angle. Donc, à l'heure actuelle, en fait, la précision sur la direction de ce neutrino, donc la direction d'arrivée, est de l'ordre de 1,5 degré à 2 degrés. Tout dépend du niveau de confiance. Et là, quand on regarde dans le ciel, en fait, il y a plusieurs sources possibles. Et donc on est incapable, avec la précision angulaire qu'on a, de dire, ben voilà, ça vient exactement de cet événement-là. Très prochainement, en fait, on va installer un nouveau dispositif qui va nous permettre, en fait, de vraiment améliorer notre résolution angulaire d'un facteur 10. C'est-à-dire qu'on aura une résolution angulaire de l'ordre de 0,1 degré sur la direction d'arrivée. Et à ce moment-là, on sera certainement capable de dire, ben voilà, en fait, il vient vraiment de cet endroit-là de l'univers. Alors, ça marche si, comme disait Valentin, en fait, ça vient d'événements cataclysmiques. En l'occurrence, si, par contre, ça vient d'un événement cosmogénique, c'est-à-dire l'interaction d'un rayonnement cosmique avec le fond diffus cosmologique, là, on sera incapable de savoir d'où ça vient.
Il aura fallu 2 ans de travail pour identifier le passage de cette particule et pour mesurer son énergie. Quelles ont été les étapes dans ces recherches ?
Beaucoup de scepticisme au début. Pour être tout à fait honnête, notre détecteur est en construction, donc au moment de la détection, on avait à peine 10% du détecteur qui était déjà installé au fond de la mer. Même si c'est une longue aventure de mettre en place un tel télescope, on se pose toujours des questions. La première fois qu'on voit quelque chose d'incroyable comme ça, et en tant que scientifique, on veut être sûr qu'on se trompe pas dans notre détection, et on veut être sûr d'avoir rejeter le plus d'hypothèses possible. Donc il y a eu d'abord beaucoup de scepticisme, et à force de regarder cet événement, on a commencé à produire des simulations très précises. En fait, on peut très bien reconstruire la trajectoire de la particule dans le détecteur, donc en se basant là-dessus, on a pu faire beaucoup de simulations avec des énergies différentes, à voir comment le détecteur réagirait, par exemple, pour différentes énergies, pour différents types de particules, et le temps passant, les études se faisant de plus en plus nombreuses, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de place pour que ce ne soit pas un muon de très haute énergie, et c'est là où le processus de publier cet événement a commencé, ce qui a pris aussi énormément de temps. En recherche, voilà, plus la découverte, entre guillemets, est importante pour la communauté, plus on veut faire du bon travail et être sûr qu'on n'est pas en train d'annoncer n'importe quoi. Donc ça a été un gros travail là-dessus, mais ce qui a fait énormément progresser la collaboration aussi, puisque c'est un travail qu'on était en construction, hein, donc il faut imaginer que pour l'instant, on ne s'attendait pas non plus à rentrer dans ce mode de travail intensif directement, mais ça nous a permis aussi de devenir bien plus fort sur ce type d'analyse.
Oui, alors effectivement, en fait, on s'y attendait pas du tout. Si on regarde, en fait, les estimations de flux à ces énergies-là de neutrinos, avec la configuration du détecteur qu'on avait, donc 21 lignes pour le site d'Arca, un événement comme ça devrait arriver tous les 70 ans. Et donc effectivement, en fait, quand on a vu cet événement-là, on était un peu abasourdi, en quelque sorte, et on avait du mal à le croire. Et effectivement, ça prend beaucoup de temps, en fait, à calibrer le détecteur, à rechecker toutes les analyses pour être sûr qu'en fait, c'était vraiment un événement à ces énergies-là.
La réaction très naïve, vraiment, hein, puisque étonnamment, notre reconstruction qu'on utilise sur tous nos événements a donné une première estimation qui est très proche de celle qu'on a à la fin. Et quand on a vu ce chiffre-là, tout le monde essayait de trouver d'où venait le bug, clairement, et qu'est-ce qui avait créé cet événement. Mais en fait, non, a priori.
Et donc du coup, vous parlez de KM3Net, concrètement, à quoi il ressemble et comment ça fonctionne ?
KM3Net, c'est un télescope. Donc c'est un télescope qui est sous-marin, donc qui est sous l'eau. Alors à première idée, on dit, bah non, un télescope, ça doit pas être sous l'eau, ça doit être en haut d'une montagne, en train de regarder le ciel. En l'occurrence, nous, en fait, on va regarder sous nos pieds. Alors pourquoi ? C'est parce que justement, les neutrinos, qui n'interagissent très très peu, en fait, vont traverser la Terre. Et donc, pour se protéger du bruit de fond cosmique ou atmosphérique, on va dire, on va regarder, en fait, vraiment sous nos pieds. Alors ça, c'est la première chose, c'est un télescope qui regarde à travers la Terre. Alors, pourquoi on se met sous l'eau ? Ben, c'est pour se protéger du rayonnement cosmique. On est à 2500 mètres pour le site Orca et 3500 mètres pour le site Arca. Donc, il y a beaucoup d'eau, et ça, c'est un blindage, en fait, contre le rayonnement atmosphérique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'on c'est un environnement qui est exempt de toute lumière. Et en l'occurrence, nous, on va détecter la lumière, et donc il faut un environnement noir, en quelque sorte, hein. Donc c'est pour ça qu'on se met au fond de l'eau. À quoi ça ressemble ? Bah, c'est des lignes de détection. Il y a 2 géométries, hein. Ça, peut-être qu'on en a pas encore parlé, peut-être qu'on reviendra dessus plus tard. Il y a 2 sites, le site en France, Orca, pour la détection des, pour l'étude des oscillations de neutrinos, et le site Arca en Italie pour l'astronomie neutrino. Ces 2 sites, en fait, ils sont basés sur la même technologie, qui sont en fait ce qu'on appelle des modules optiques, des dômes, qui sont équipés de 31 photomultiplicateurs.
Alors, ces dômes, ce sont des sphères à peu près d'une quarantaine de centimètres en verre, effectivement, avec voilà. Ces 31 photomultiplicateurs.
Qui sont en fait des sortes d'yeux, en fait, qui vont pouvoir capter la lumière, lumière Cherenkov, qui va être produite par les particules chargées issues de l'interaction des neutrinos avec, avec l'eau, en l'occurrence les protons de l'eau.
Si on reprend le muon de très haute énergie, c'est vraiment ça, c'est une particule qui passe, qui produit un cône de lumière, ce qui fait qu'on voit la lumière se propager dans le détecteur, et comme on a vraiment cette géométrie très précise du cône, ça nous permet de nous très... si on détecte la lumière avec une bonne précision sur sa position et le temps d'arriver dans chacun des yeux du détecteur, on peut reconstruire très précisément la trace de la particule.
Le setup, en fait, bah, ça va être ces modules optiques, ces boules. On fait une sorte de guirlande, si on veut, hein, une guirlande verticale de 18 modules optiques qui sont espacés de 20 ou de 40 mètres. Et donc on a des lignes comme ça qui sont installées au fond de l'eau, qui font 200 mètres de haut pour le site Orca et 700 mètres de haut pour le site Arca. Alors en fait, elles sont accrochées au fond de l'eau, elles sont arrimées au fond de l'eau avec une ancre qui pèse plusieurs tonnes. Et elles sont maintenues verticales avec une bouée, en fait... Il y en aura 115 pour le site Orca et 230 pour le site Arca.
Pour donner une idée du volume de ces deux détecteurs, le détecteur français, il fait donc 200 mètres de haut sur 200 mètres de diamètre. 200 mètres de haut, c'est un peu plus de deux fois la tour du CHU, pour donner une référence. Si on prend le détecteur italien maintenant, Arca, on va être à peu près 8 fois la tour du CHU en hauteur, ce qui reste très difficile à se représenter, et 1 km de diamètre, ce qui fait que c'est le nom de la collaboration, KM3 c'est pour kilomètre cube neutrino télescope. Le détecteur italien, j'avais fait le calcul rapidement il y a quelques temps, on peut mettre 2000 fois la tour du CHU à l'intérieur. C'est pour vous donner une idée de à quel point c'est titanesque comme objet.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Nous sommes avec Benoît Guillon et Valentin Pestel pour parler de la découverte d'un neutrino hautement énergique par KM3Net. KM3Net, on en parlait justement. Comment est né ce projet ?
Alors, c'est un projet de très longue haleine. L'idée de faire un télescope dans la mer comme ça, ça remonte aux années 60 à l'université d'Hawaï. Mais techniquement, c'est très compliqué. Ils ont eu peu de succès jusqu'aux années 90. Ils ont fini par abandonner et ça a été repris par des équipes françaises du CNRS, du CEA, avec l'aide de l'Ifremer pour la partie sous-marine. Et ils ont réussi, au début des années 2000, à déployer un premier télescope dans la mer, Antares, qui a été opéré jusqu'à 2022 et qui avait un beaucoup plus petit volume, mais qui était là pour essayer de tester la technologie et de se faire la main un petit peu. Et c'est juste après les premiers succès d'Antares, à la moitié des années 2000, début des années 2010, que la collaboration KM3Net a été formée pour commencer justement le développement technologique pour réussir à fabriquer ces yeux dont on parlait tout à l'heure, qui nous permettent de détecter la lumière, de s'assurer que tout résiste bien à la pression. Et ça fait à peu près depuis 2020 qu'on prend des données de physique où on peut vraiment commencer à étudier et sortir des résultats de physique avec l'instrument.
Alors oui, effectivement, je peux peut-être rebondir là-dessus. Il y a vraiment des contraintes qui sont extrêmement fortes, en fait, pour aller sous l'eau. Hein. Et c'est principalement pour ça que, du côté d'Hawaï, en fait, ils avaient laissé tomber au bout d'un moment. Et ça nécessitait, en fait, des coopérations très, très ténues avec l'Ifremer, en quelque sorte. Hein. Alors, il faut voir que, quand on est à 2500 mètres ou 3500 mètres, la pression est extrêmement importante. Hein. Typiquement, à 3500 mètres, on a 350 atmosphères. C'est des pressions mécaniques qui sont difficilement tenables, en fait. Il y a la salinité de l'eau aussi, participer à la corrosion des matériaux. Et donc tout ça, ça a mis extrêmement beaucoup de temps, en fait, à être validé, à être qualifié, en quelque sorte. Il faut voir aussi qu'on ne peut pas y aller. Donc on pilote ça avec des robots. Donc il faut ce qu'on appelle des ROV. Il faut emmener en fait le courant électrique, la fibre optique, et puis il y a un robot qui vient plugger en fait tous nos dispositifs à distance. Ça prend énormément de temps en fait à développer. On peut peut-être parler aussi d'un autre projet qui s'appelle Ice Cube, qui est donc en Antarctique et qui est au pôle sud. Alors là, ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes, ils sont dans la glace. C'est compliqué d'y aller, hein, c'est un environnement très aride. Par contre, d'un point de vue instrumentation et déploiement des lignes, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on n'a pas ces problèmes de pression et de salinité.
Alors, beaucoup plus simple, ça reste faire un trou dans la glace de 2 km de profond, ce qui est plus simple, mais qui reste compliqué. Hein.
On pourrait également parler d'un autre projet qui s'appelle Baïkal, où là, en fait, on est. Donc, c'est un projet russe. où ils sont en train de prendre des données, ils sont dans le lac Baïkal en Russie, et donc là pareil c'est un peu plus simple, parce que le lac est gelé en fait l'hiver, et donc ils peuvent y aller en 4x4 en quelque sorte, et puis déployer les lignes de façon beaucoup plus simple que nous.
Et donc vous parliez de la difficulté d'accès à KM3Net, du coup comment elle s'organise la maintenance sur ce dispositif?
L'idée, c'est qu'il y en ait le moins possible, voire pas du tout. Le cahier des charges, il est très simple là-dessus. Hein. Les lignes sont déployées une fois, elles sont branchées au fond de la mer et elles doivent fonctionner pour une dizaine d'années. L'idée, c'est qu'on va l'opérer le plus longtemps possible. C'est une technologie sur laquelle c'est difficile de lui donner un temps de vie, parce que c'est aussi... pour Antares, on a une idée, ça a duré 15 ans et le matériel était encore en bon état. Voilà, notre objectif, c'est à peu près 10 ans. Donc non, on déploie, on branche et on espère ne plus jamais y retourner, jusque bien sûr à la fin quand on démontera le télescope et qu'on ira tout repêcher.
Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois qu'on le repêche?
Bah, ça dépend. Sur l'ancêtre Antares, par exemple, les modules optiques, ils sont recyclés. Il y a un projet, notamment, en ce moment, qui vise à en installer dans le lac Léman pour détecter des rayonnements cosmiques. Donc, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir recycler. Ça dépendra de l'état. C'est difficile à savoir qui en aura besoin. Qui en aura besoin dans 15, 20 ans. Mais voilà. Et à repêcher, en fait, ça flotte. Hein. Donc, une fois qu'on a coupé les lignes en bas, les lignes remontent à la surface, on les repêche. Et on vient juste avec ce robot pour attraper les ancres et les remonter avec une grue. Et en fait, c'est assez facile à démonter. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est moins difficile.
Un petit mot, il n'y aura pas d'impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne laisse rien sur place. Tout a été qualifié. Il n'y aura pas de déchets en fait, au fond de la mer dû à notre installation.
On parlait tout à l'heure des deux sites Arca et Orca. Qu'est-ce qui les différencie? Quel est leur rôle à chacun?
Alors, Orca, c'est pour l'étude du neutrino, en particulier les oscillations de neutrino. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Alors, je vous avais dit au tout début, en fait, qu'on connaît très peu de choses sur ce neutrino. En l'occurrence, on ne connaît pas sa masse. Alors, on sait que ces neutrinos sont massifs du fait qu'ils oscillent. Alors, ils oscillent, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous connaissez le chat de Schrödinger, où en fait le chat peut se retrouver dans deux états quantiques, dans une superposition de deux états quantiques, mort ou vivant. Alors c'est moins funeste pour le neutrino. Il n'est pas mort ou vivant, mais en fait il est dans une superposition de trois états, qui sont justement électroniques, muoniques, et toiques. Donc c'était les trois saveurs qui sont associées aux trois lettons chargés, électrons, muons et taux. Et donc avec le site Orca, on va étudier ces oscillations de neutrino. Donc comment en fait le neutrino oscille d'une saveur à une autre. Et ça va nous permettre en fait de remonter à la hiérarchie de masse. Alors on ne connaîtrait pas la masse absolue, mais on pourra savoir quel est l'ordre de masse des neutrinos, quel est le plus lourd ou plus léger entre ces trois neutrinos. Ça c'est l'objectif principal du site Orca. Et pour ce faire, on utilise les neutrinos atmosphériques, et donc non pas les neutrinos cosmiques dont on parlait jusqu'à présent. Ce sont les neutrinos qui sont produits dans l'atmosphère en fait. Toujours pareil, issus de l'interaction de rayons cosmiques avec l'atmosphère. On est bombardé d'un flux de neutrinos atmosphériques et on va étudier cela. Ça c'est le site Orca. Alors, peut-être un petit détail, mais en fait, on vous a parlé tout à l'heure des géométries. En fait, le site Orca est moins haut et plus dense. Alors pourquoi? C'est parce que ces neutrinos atmosphériques sont à plus basse énergie. Le site Arca, lui, c'est un réseau qui est plus étalé pour accéder à des énergies qui sont plus hautes, donc au-delà de 100 GeV. Et donc là, c'est plutôt pour faire de l'astronomie neutrino. Donc c'est pas les mêmes objectifs physiques, même s'il y a la même technologie, puis un recouvrement en énergie quand même, malgré tout.
Avec les deux observatoires, pour donner une idée, ça permet à la collaboration de pouvoir détecter des neutrinos de 1 gigaélectronvolt jusqu'à ce qu'on a détecté à peu près ici la centaine de pétaélectronvolts. Ça fait qu'on couvre entre la particule la plus basse énergie et la plus haute, c'est à peu près 1 milliard le rapport qu'on va avoir entre ces énergies. Donc ça permet de couvrir une gamme en énergie très importante. je rebondis rapidement parce que vous parliez dans l'introduction d'un papier qui s'intéressait à la forme du noyau de la Terre. Et en fait, pour les oscillations de neutrinos, c'est quelque chose qu'on va utiliser notamment, puisqu'en fonction de la direction du neutrino qui a traversé la Terre, on peut savoir de quel côté il a été produit et donc quel était son parcours dans la Terre. Et c'est grâce aux différences de densité que le neutrino va traverser à travers la Terre qu'on est capable de prédire des propriétés différentes pour les oscillations. Donc nous, justement, la composition de la Terre, sur le long terme, après ces résultats de physique, une des choses qu'on peut espérer faire avec le neutrino, c'est de la tomographie de la Terre pour venir justement étudier la composition interne de la Terre en utilisant les neutrinos qui l'ont traversée. Voilà, c'est un clin d'œil à l'actualité que vous mentionnez au début.
Et donc, Arca se trouve à 3450 mètres de profondeur au large de la Sicile. C'est lui qui a détecté le neutrino dont on parle depuis le début. Et Orca est immergé à 2450 mètres de profondeur au large de Toulon. Pourquoi avoir choisi ces deux zones en particulier et plus largement la Méditerranée ?
Alors, la principale raison, c'est que on descend profondément très vite, très rapidement. C'est-à-dire que pour le site Orca, on est simplement à une quarantaine de kilomètres de Toulon. Et ça simplifie beaucoup les choses, notamment en termes de... Alors je vous disais, en fait il faut amener l'électricité et puis la fibre optique. Donc là c'est très pratique parce qu'en fait à 40 km de Toulon on est déjà à 2500 mètres. Ça aurait pas été possible par exemple si on s'était installé en Atlantique où là on aurait dû aller très très loin au large de la côte pour pouvoir atteindre ces profondeurs-là. Ça c'est la principale raison. Pourquoi il y a deux sites ? On aurait pu imaginer tout mettre au même endroit. Ça c'est en fait principalement des raisons d'organisation et puis pour obtenir des fonds financiers. En fait, un des aspects qui nous préoccupe beaucoup en fait et qui nous prend beaucoup de temps, c'est trouver des financements pour ces projets-là. Et avoir un site en France et un site en Italie, ça permettait de pouvoir en quelque sorte demander de l'argent à plusieurs agences de financement en Italie et en France.
Alors, KM3Net, on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas encore achevé, mais où est-ce qu'on en est exactement ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Pas mal de choses, en fait. Sur le détecteur français, donc actuellement, on a 24 lignes de détection sur les 115 qui sont prévues. Donc, il y en a encore un petit paquet à construire et à déployer. Et pour le détecteur italien, on est à 33 sur les 230 qui sont prévues. Donc, aussi encore beaucoup de travail ici. On est aux alentours un peu plus de 10% sur le détecteur français et une dizaine de pourcents sur le détecteur italien. Donc, beaucoup de travail de construction. Ça peut paraître très long comme ça. En fait, on accélère sur la construction. La première partie, déployer ces lignes, on a pris notre temps sur la construction. C'était aussi une phase où des fois on déployait des lignes, on s'en rendait compte qu'il y avait des problèmes, on les reprenait, etc. pour venir corriger des problèmes et comprendre ce qui se passait. Maintenant, la technologie, elle est mature, donc on rentre dans la phase de production de masse de ces lignes pour les déployer. On estime que les détecteurs seront terminés pour la fin des années 2020. 2028 pour Orca ou plus tôt, et dans ces eaux-là aussi pour le détecteur italien. Et donc là maintenant ça va principalement être de la construction et des missions en mer pour déployer les lignes construites.
Peut-être un point là-dessus, un des points qui nous ralentit, c'est l'approvisionnement en matériel en fait. On a eu beaucoup de soucis pendant la crise Covid et puis après, il y avait des pénuries en fait de composants électroniques qui nous ralentissent en fait dans la construction.
Et donc à terme, on en a déjà parlé plus ou moins, mais à terme, quels sont les objectifs précis de KM3Net une fois qu'il sera achevé ? Et quelle est la différence entre les objectifs de KM3Net et ceux d'autres projets comme IceCube dont on parlait justement ?
Alors déjà sur la partie oscillation de neutrinos, la compréhension du neutrino, notre technologie, du fait qu'elle est dans l'eau liquide est beaucoup plus transparente et ça nous permet de descendre à plus basse énergie. Et donc cette technologie semble très prometteuse pour justement ces études de précision et en ça on se différencie vraiment. On va sûrement être le télescope neutrino qui va pouvoir descendre le plus en énergie. Pour la partie astronomie, ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas au même endroit qu'IceCube sur le globe et comme on l'a dit tout à l'heure, on regarde le ciel de l'autre côté de la Terre. Et en fait, IceCube, là où ils se situent, ils ont une couverture, par exemple, du plan galactique de notre galaxie qui est assez intermittente et qui voit en fait peu de temps dans l'année. Nous, en étant plus proche de l'équateur, on va en fait avoir une bien meilleure couverture du plan galactique et donc on va regarder une partie de l'espace qui est différente. Donc au final, c'est déjà des collaborations en fait avec lesquelles on travaille et on est en réseau. Et l'idée, c'est de réussir à fournir une carte du ciel en termes de neutrinos qui serait la plus couverte possible et avec le plus d'événements possible. Donc à terme l'objectif c'est d'être complémentaire de ce que eux font Oui, bah, principalement c'est ça. Hein, c'est de. Il y a une révolution qui arrive en ce moment en astronomie depuis une dizaine d'années. C'est ce qu'on appelle l'astronomie multi-messager. Et l'objectif maintenant, c'est plus chacun de faire nos observations de notre côté, mais c'est de se mettre en réseau et que tous les gens partagent leurs observations. Tous les chercheurs les partagent. Donc on va avoir des gens qui regardent les rayons gamma, des gens qui regardent les rayons optiques, des gens qui regardent les ondes gravitationnelles, d'autres les neutrinos. Et l'idée, c'est de se mettre ensemble pour réussir à faire une grande banque de données de ce qu'on connaît dans le ciel et de comment on peut associer ces différentes sources pour comprendre précisément ce qui s'y passe.
Et comment expliquer que Ice Cube, qui existe depuis plus longtemps, n'ait pas capté de neutrinos aussi puissants, alors que KM3Net l'a capté en n'étant même pas achevé? Certains ont dit que c'était de la chance.
C'est certainement de la chance, effectivement. Ouais.
C'est difficile, pour l'instant on n'a pas de réponse définitive. Je pense que eux vont sûrement aussi faire beaucoup d'études de leur côté pour essayer de comprendre ce qui c'est exactement pourquoi on est là. Voilà, après, comme on vous disait, c'est un événement qu'on attendait comme un tous les 70 ans. On a eu de la chance sur le moment où il est arrivé. Après, le détecteur va grandir. Il y a sûrement des choses qu'on ne connaît pas à plus haute énergie. On n'est pas à l'abri d'une surprise.
Et sur cette occurrence, donc un événement tous les 70 ans, là, on n'est vraiment pas sûr de ce chiffre-là. Hein. En fait, on est dans un domaine en énergie où en fait les prédictions sont entachées de beaucoup d'incertitudes. Et donc en fait, on n'a vraiment pas beaucoup d'inputs expérimentaux pour nous dire en fait les modèles de flux à ces énergies-là sont ceux-là. Là, en fait, c'est terra incognita, en quelque sorte. Hein. Voilà, donc c'est un premier événement. Et on espère en détecter d'autres plus tard.
Hein. On pourra sûrement répondre à cette question dans 15 ans.
Cette découverte, c'est le fruit d'une vaste collaboration internationale réunissant 350 scientifiques issus de 68 laboratoires. Comment ça se passe, la collaboration entre ces différents laboratoires?
Alors... Les collaborations scientifiques, c'est un peu un fonctionnement organique en quelque sorte. Hein. Donc il y a beaucoup de pays, hein, beaucoup d'instituts, et il n'y a pas vraiment de, on va dire, de chef. On élit des porte-paroles et des responsables de working group, en fait, de groupes de travail spécifiques pour, par exemple, ça va être la calibration, ça va être les analyses de physique, ça va être la partie astronomie. C'est des élections qui se font en fait au niveau des instituts, mais il n'y a pas de gouvernance ad vitam aeternam en quelque sorte. Il y a des élections qui se passent tous les deux ans, et moi je suis toujours épaté que ça fonctionne, parce que finalement en fait personne n'est le chef de personne, et tout est sur le bon vouloir de chacune des équipes et chacun des scientifiques en quelque sorte. Et donc ça fonctionne un peu comme ça. Alors tout le monde de leur côté essaie de trouver des sources de financement. Alors ça va être des financements européens, ça va être des financements nationaux. Alors en France, on est beaucoup soutenu par le CNRS. En local, on est soutenu par exemple par la région. Et ça, en fait, chaque institut le fait de son côté pour avoir des financements pour financer le détecteur. Donc déjà rien qu'au niveau du financement, vous voyez que c'est un peu compliqué. Et tout le monde met l'argent ensemble pour pouvoir construire ce détecteur, et tout le monde se met plus ou moins d'accord. Alors, on se réunit trois fois par an, en fait, tous ensemble, pour justement essayer de se coordonner. C'est des choses qui sont pas simples, mais qui au final marchent.
D'ailleurs, la prochaine réunion est à Caen, au mois de juin. Donc voilà, si vous voyez beaucoup de physiciens en ville parler de neutrinos à cette période de l'année, ce sera nous.
Et donc maintenant que cette découverte elle a été confirmée, qu'elle est officielle, c'est quoi la suite, les prochaines étapes?
Priorité, ça va être continuer à construire le détecteur. Donc là, voilà, on met beaucoup d'efforts pour construire le détecteur. D'ailleurs, il y a un site à Caen, au LPC Caen, au laboratoire de physique corpusculaire de Caen. On participe grandement à la construction de ces lignes de détection pour le site Orca. Donc voilà, donc on continue en fait à construire le détecteur. Et puis, on continue à analyser les données, voir si on a d'autres événements.
Il y a un aspect qu'on n'a pas du tout abordé, mais je vous parlais tout à l'heure de l'astronomie multimessager. Par exemple, c'est mettre en place un système d'alerte. Ça va arriver au printemps. Et donc, on va passer de, là, vous voyez, à peu près 2 ans pour publier un événement, à sûrement quelque chose qui va être de l'ordre de la minute, où, avec des alertes automatiques qui seront envoyées sur les réseaux en astronomie. Parce que l'idée dans le futur, c'est que si on découvre quelque chose à nouveau comme ça, les autres télescopes puissent pointer sur la même direction du ciel rapidement pour voir si eux aussi voient quelque chose. Ça, c'est aussi une étape importante pour nous qui va arriver très bientôt là.
Merci beaucoup Benoît Guillon et Valentin Pestel d'être venus à notre micro. On le rappelle, vous êtes respectivement maître de conférence à l'ENSICAN et chargé de recherche au CNRS. Bonne journée à vous.
Merci.
Merci.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Et on commence avec une recommandation documentaire, Ukraine sur les traces des bourreaux. Alors que ça fait bientôt 3 ans que les forces russes ont envahi l'Ukraine, suivez cette enquête sur les crimes de guerre commis et planifiés par Vladimir Poutine et son régime. C'est diffusé ce soir à 21h sur Arte. Vous pouvez également retrouver ce reportage en streaming sur le site de la chaîne jusqu'au 25 mai.
À 20h30 ce soir également, le Café des Images et l'association de soins palliatifs en Calvados organisent une diffusion du film Le Dernier Souffle. La projection sera suivie d'une rencontre avec des professionnels de santé autour de la fin de vie, sujet au cœur du film de Costa Gavras. Les réservations se font sur le site du Café des Images.
Et enfin, samedi 22, rendez-vous au Dôme de 14 à 16h pour un atelier fabrique à nichoirs à oiseaux. L'occasion de vous familiariser avec le protocole du grand comptage printanier des oiseaux de jardin qui aura lieu en mai. Durant cet atelier, vous construirez donc votre propre abri à oiseaux qui permettra de multiplier vos chances d'observer des espèces difficiles à apercevoir. C'est gratuit pour tous à partir de 12 ans. Vous pouvez vous inscrire depuis le site du Dôme. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emile à la technique. On se retrouve la semaine prochaine dans quelques instants. Rendez-vous avec Bastien pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.